Donc, exceptionnellement, le groupe Kropotkine organise sa rencontre de la bibliothèque sociale un samedi. D'habitude, c'est toujours le jeudi. Donc, pourquoi on l'a fait un samedi? C'est parce que, pour la première fois, on projette un film avant de faire la rencontre avec l'écrivain. Donc aujourd'hui, on reçoit Jérôme Prieur et on en remercie parce qu'on sait que tu te déplaces pas beaucoup. Donc on pourra peut-être commencer par lui demander qu'est-ce qu'il a décidé à venir se perdre dans le trou du cul de la France, à Merlieu, en Picardie, par un jour ensoleillé. Bon, pour les gens qui ne sont pas là, tout le monde, il pleut à seaux dehors aujourd'hui. Bon.
Les recommandations enthousiastes de mon ami et collègue Gérard Mourdia ont fait le nécessaire pour que je me décide, malgré toutes mes réticences, à venir ici. Non, mais voilà.
On le remerciera, parce que bon, eux tous aussi d'ailleurs, vous
Trop le
revenez à Merlieu.
remercier non plus, hein, parce
Non
que.
plus, non, mais on le remerciera quand même à notre façon. On a une façon bien particulière de remercier Gérard Mordeillat, nous. Et donc, voilà, on va pouvoir commencer, puisque
Voilà.
en France, il arrive.
J'ai tout recommencé.
Oui, voilà. Et oui, donc tu seras à la fête du livre de septembre avec Gérard, donc à Merlieu.
Certainement, oui, si je suis invité,
Ah
oui.
oui, mais tu es invité déjà, tu as donné ta réponse d'ailleurs hein,
Oh.
positivement. Je vois que ça t'a marqué. Donc je te le redis, on t'attend le 28 septembre à Merlieu avec le camarade Mandiliam. Voilà. Donc aujourd'hui, je disais qu'on commence un samedi. Bon, peut-être que dans l'avenir, les rencontres qu'on organise à la Bibliothèque sociale de janvier à juin, rencontres, débats avec un écrivain, une association, ou voilà, peut-être qu'on va travailler la question pour voir si on peut faire la même chose autour de films. Hein, puisque bon, vous avez vu qu'on s'est équipé un peu, alors autant en profiter. Et puis avant de démonter les estrades et les sièges. Voilà. Donc ça, c'est un des projets. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, on va peut-être commencer par parler de livres, parce qu'on reviendra sur le film. Vous préférez qu'on parle du film? Mais bon, c'est un. Oui, peut-être.
Oui,
Alors,
si
je
tu
sens qu'il y a un
veux.
assentiment dans la salle. Donc, alors vous intervenez comme vous voulez, hein. C'est-à-dire qu'on a un autre micro, donc on vous demande quand même de le prendre, puisque comme c'est enregistré, avoir des réponses sans avoir des questions, c'est assez problématique. Voilà. Donc peut-être que tu veux présenter un peu ce
Suis
film.
sûr que non, moi je veux bien répondre. Enfin, si c'est difficile de parler après ce film, mais là c'est bien d'avoir fait cette petite pause, quoi, parce que je pense que quand on sort du film. Enfin, je veux dire, pour vous dire les choses, moi, pendant le montage, avec ma monteuse, tous les vendredis, soir, on était un peu effondrés, comme si on n'arrivait pas à sauver cette fille, quoi, cette jeune fille. Donc, je pense que c'est aussi la sensation qu'on a en voyant le film, parce qu'on se met à, on se met à croire à sa capacité de survie, tellement c'est quelqu'un d'intensément vivant et. Donc il y a ce sentiment de il y a ce sentiment il y a cette admiration qu'on peut éprouver pour cette personne, pour cet être vivant, et puis en même temps il y a cette révolte, cette rage que elle, parmi des milliers, des millions d'autres, ait été massacrée sans autre raison que l'arbitraire de vouloir sortir du genre humain une catégorie d'être parmi d'autres, voilà. Et donc, simplement, ce qu'il y a d'extraordinaire, d'exceptionnel avec Hélène Berre, c'est que c'est une jeune fille qui avait un talent inouï et que ce journal, qu'elle n'a jamais relu, hein, est une œuvre littéraire d'une très grande force. Enfin, c'est un témoignage, mais en même temps, c'est l'œuvre de quelqu'un qui aurait dû devenir, en plus de ses autres talents, un grand écrivain. Enfin, c'est un texte très fort, très bouleversant, très fort, très lucide, très aveugle aussi, comme nous le sommes chacun, mais d'une lucidité qui est confondante. Enfin, se dire que quelqu'un, enfin cette jeune fille, elle avait entre 21 et 23 ans au moment où elle l'écrit, qu'elle l'écrit comme ça et qu'elle sait tout, quoi, d'une certaine façon, qu'elle sait tout ce qui se passe, ou quasiment tout. Enfin, je sais pas, la manière dont elle raconte, par exemple, la rafle du Veldiv, donne l'impression qu'elle y était, alors que, évidemment, elle n'y était pas, et que c'est ce qu'elle a entendu, c'est tous les éléments qu'elle a pu collationner, réunir, qui lui font nous donner ce compte-rendu si surprenant. Enfin, même le mot sidérant est le mot qui revient pour moi beaucoup dans ce texte, enfin dans cette voix qu'on entend vraiment grâce au film, j'espère, mais grâce à la publication de ce livre qui n'a pas été d'ailleurs évidente. Voilà. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions précises auxquelles je peux répondre. Je peux aussi répondre aux questions que vous ne poussez pas, mais...
Moi, je voulais juste savoir comment vous aviez trouvé le document de... Ça a déjà été dit ? Non ?
Oui, comment ?
Comment vous aviez retrouvé son document ?
Ah ben, il a été publié, hein.
Mais au départ...
C'est maintenant trouvable en livre de poche. Mais ça a été une longue histoire, parce que ce journal, ben, vous avez compris que ça a été un journal écrit pendant la guerre. Après la guerre, le manuscrit a été récupéré, sauvé grâce à la cuisinière,
cette dame qui
s'appelle André Bardiot. Quelqu'un des entreprises de l'entreprise Kuhlmann, dont Raymond Baird était l'un des dirigeants, l'a tapé à la machine, et la version dactylographiée de ce journal est restée dans la famille. Voilà. Très tard, dans les années 90, l'une des nièces d'Hélène Baird, l'une des filles de la sœur d'Hélène Baird, Denise, qui est évoquée dans le film, dans le journal, Mariette Job, donc la fille de Denise, s'est mise en tête tout à coup de retrouver le manuscrit. Et donc, qui avait été donné aussi, j'oublie de dire, qui avait été donné au fiancé d'Hélène Baird, à Jean Morawiecki. Son destin avait été tout à fait autre et sa trace était perdue. Et donc, Mariette Job, la nièce, l'a retrouvée. Elle savait qu'il travaillait pour les affaires étrangères et donc elle a écrit au ministère des Affaires étrangères. Enfin, je vous passe les péripéties, les détails. Elle l'a retrouvée, elle l'a rencontrée et puis ils se sont vus pendant quelques années et un jour il lui a donné le manuscrit mais le manuscrit a dormi pendant 7 ou 8 ans il avait dormi dans une armoire de Jean Morawiecki qui éprouvait une grande culpabilité une grande douleur, une grande culpabilité aussi, enfin une culpabilité irraisonnée mais une culpabilité. Et de même, le manuscrit, une fois entre les mains de l'une de ses nièces, a dormi pendant quelques années avant qu'il y ait une lecture de ce journal au Mémorial de la Shoah à Paris, qu'un éditeur l'entende et que la famille ou une partie de la famille, parce que c'est compliqué, accepte que ce journal qui était resté inédit jusque-là soit publié. Et il est paru pour la première fois en 2008, je crois. Donc vous voyez, c'est très tardif. Mais pour dire que c'est compliqué, ces choses-là sont compliquées, j'ai eu affaire à celle qui a été la cheville ouvrière de la publication, Mariette Job, qui a rétabli le texte dans son intégralité parce que la dactylographie devait comporter quelques erreurs, quelques lacunes. Mais enfin bon, je suis pas sûr qu'il y ait eu de grandes différences, mais son rôle, à part, bon, il y a des, si vous achetez le livre en point, vous verrez qu'il y a des, il y a quelques notes, mais pas tellement. Mais je pense que son grand rôle, c'était de convaincre la famille ou une partie de la famille que ce livre, enfin que ce journal devait devenir un livre qui n'était pas seulement une histoire de famille. Et pour vous dire les choses, moi j'ai eu affaire donc à elle, parce qu'elle était la représentante des ayants droit, comme on dit. Et quand le film a été terminé, j'ai éprouvé le besoin de le montrer au reste de la famille et de le montrer en l'absence d'Hélène Baird, d'Hélène Baird évidemment, de Mariette Job, tellement j'ai senti qu'il y avait des hostilités à l'intérieur de la famille. Et donc j'ai fait une projection pour les autres membres de la famille et qui était très violente, non pas par rapport au film qu'ils ont tous apprécié, admiré, même si c'est leur histoire, alors c'est difficile, nous on est des spectateurs, c'est tout à fait différent. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'une grande partie de la famille, pour ne pas dire la quasi-totalité de la famille, trouve encore aujourd'hui, enfin il y a un an, que ce journal n'aurait pas dû nécessairement être publié et que si on a pu soutenir qu'il fallait le publier, qu'il ait eu autant de retentissement. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit dans, je sais pas, près de 30 langues dans le monde entier, que c'était gênant. C'était gênant parce que c'était attirer la lumière encore sur cette histoire, sur une famille particulière parmi d'autres, enfin, sans se rendre compte que ce témoignage, enfin, sans se rendre compte, encore une fois, en extérieur, hein, si c'était notre famille, ce serait différent, mais sans accepter l'idée que ce témoignage est un témoignage sur le plan littéraire, humain, par rapport à l'histoire, irremplaçable, et que, heureusement, qu'il n'a pas été perdu. Enfin, grâce à la publication de ce journal, et peut-être modestement grâce à l'existence de ce film, mais grâce surtout à l'existence du journal, à l'existence publique du journal, on peut se dire que Hélène Baird n'est pas complètement morte, enfin, qu'elle a joué, comme elle le dit, un tour au temps, pour en prendre la formule de Montaigne, qu'elle a vaincu quelque chose, enfin, qu'elle serait probablement morte aujourd'hui, et là, elle nous laisse quelque chose qui la rend intensément vivante et qui nous dit ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On peut espérer, hein, que d'autres témoignages comme ça, dans d'autres familles, ressurgiront, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait des œuvres de cette qualité-là, qu'il y en ait beaucoup. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, on ne sait pas, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, le fait que ce journal soit publié n'a pas été une affaire facile.
Mais bon, peut-être aussi parce que bon, il y a des positions qu'elle prend, Hélène, qui sont difficilement compréhensibles pour le kidam comme moi. Par exemple, bon, de voir tous les juifs parisiens, étrangers d'abord, etc., en sachant que les juifs français seront dans la suite logique, continuer à rester à Paris. C'est, pour moi, ça dépasse un peu l'entendement. Parce que ce qui m'intéresse, je veux dire, ce qui m'a, surpris, c'est qu'effectivement, elle est très, très lucide. Mais voilà, 20 ans quand même. Et je pense, à 20 ans, moi, je suis assez éberlué de voir cette capacité qu'elle a d'analyse de la situation. Bon, outre que le style, effectivement, de ses écrits est déjà quelque chose d'affirmé, mais l'analyse qu'elle a, et puis les conclusions qu'elle en tire. Parce que même au niveau, par exemple, pour reprendre dans le début du film, l'étoile jaune, le port de l'étoile jaune, hein, on voit les deux arguments qui la pénètrent et qui sont tous les deux acceptables, enfin je veux dire compréhensibles en tout cas. Et voilà, d'ailleurs elle passe ensuite de l'un à l'autre, une fois elle la porte, une fois elle la porte pas, et moi, voilà, moi je suis Voilà, alors ça, c'est une question moi, qui m'interroge. Est-ce qu'il y en a beaucoup de juifs qui ont préféré rester à Paris en pensant qu'ils passeraient à travers?
Non, alors ça, sans généraliser trop vite, ça, c'est la grande question du journal. Quoi. C'est pour ça que je disais à l'instant que c'était un texte qui était frappant, enfin un texte et à travers ce texte, une voix, cette jeune fille, frappant par sa lucidité et en même temps par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui son aveuglement. Enfin, je dis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on sait que la guerre, que Paris a été libéré en août 44, on sait que la guerre s'est terminée en mai 45, enfin, quand on vit les événements, on n'a évidemment pas cette capacité de savoir exactement comment les choses vont tourner. Et donc, il ne faut pas oublier ça, là, on est dans la situation de quelqu'un qui vit les événements sans voir l'issue. Hein. Donc ça, c'est très important. Il faut pas être anachronique. Hein. Mais l'histoire de l'étoile jaune est très très intéressante parce qu'on voit effectivement quelqu'un qui a les deux positions, quoi, qui se révolte contre cette chose dégueulasse et qui en même temps se révolte contre sa manière de ne pas solidariser avec ceux auxquels cette marque d'infamie serait appliquée. Et donc, elle dit, je vais la porter avec fierté. Enfin, j'emmerde les nazis, je le fais. Quoi. Bon, c'est tout à fait infantile et puéril, mais c'est en même temps admirable. Enfin, et donc, il y a cette ambivalence. Enfin, on peut dire que... Ben, traiter les choses, pas globalement. Hein. Les historiens sont très sensibles aujourd'hui à ce qu'ils appellent la micro-histoire, c'est-à-dire analyser des milieux historiques et des milieux sociaux et à montrer que dans ces milieux sociaux, il y a tout un ensemble de déterminations qui font que les comportements sont jamais les mêmes et fait que, par exemple, des gens qui se cachent peuvent être arrêtés et déportés, que d'autres peuvent ne pas se cacher et ne pas être arrêtés, que d'autres peuvent rester et être épargnés, que d'autres peuvent rester et au contraire être arrêtés, que c'est très compliqué. Quoi, mais évidemment, la grande question que pose le livre et le témoignage d'Hélène Baird, c'est pourquoi ? Pourquoi rester là ? Enfin, pourquoi être de plus en plus sensible au gouffre qui s'ouvre sous ses pas et rester là ? Alors, il y a des tas de réponses hein, qu'on peut trouver. Hein. Oui.
Oui, bah dans le film, il y a un moment où elle précise bien pourquoi elle reste à Paris. C'est parce que ça serait donner raison aux Allemands, c'est-à-dire fuir, etc., etc. Bon, elle le dit bien, c'est une manière de résistance, déjà, qui se comprend bien, quoi.
Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais ce qui m'a frappé, c'est, on parlait de sa lucidité, c'est les questions qu'elle pose dans son présent, dans ce présent qui est celui de Paris occupé et de sa situation de femme juive. Elle pose les questions qu'on s'est posées juste après la guerre et qu'on cessera plus jamais de se poser. La position des gendarmes, cette femme qu'elle appelle une femme du peuple et dont elle découvre qu'elle ne sait pas, alors qu'elle sait tellement de choses et qu'au cours de ces 60 dernières années, on a tellement répété que... On ne pouvait pas savoir pour les chambres à gaz, on ne pouvait pas savoir pour les camps, on ne pouvait pas savoir pour les trains. Et elle est en plein dedans, elle a 20 ans et elle le sait. Voilà, ça c'est quelque chose qui laisse quand même dans cet état sidération dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas l'élucider, ça.
Ouais, mais ça montre que si on voulait savoir, on pouvait savoir. Quoi, voilà. Et les historiens aujourd'hui, voyant ce témoignage, se disent « Oui, c'est étonnant, elle sait presque tout. » quoi. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas les chambres à gaz, mais il y a l'écho du gaz, on peut gazer des gens. Quoi. Ce qu'elle n'imagine pas, je pense, et ce que peu de gens pouvaient imaginer à l'époque, c'était l'entreprise de destruction industrielle auxquelles les victimes étaient confrontées. Mais sinon... même ce qu'on a appelé récemment la Shoah par balle, c'est-à-dire l'élimination individuelle de, 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 de Jean, elle y fait allusion, quoi, l'histoire qu'elle entend à l'hôpital, enfin, qui est répercutée par un... Bon, ça, c'est une rumeur, par exemple, qui a couru. C'est des rumeurs dont elle est l'écho, même si les choses ne se sont pas passées comme ça. C'est une chambre d'écho. Encore une fois, il y a un exemple au début du livre, au début du journal, qui est très, très significatif. C'est ce qu'elle dit de la rafle du Veldiv. C'est-à-dire que, sans y avoir mis les pieds, par tout son réseau d'informateurs indirects, elle sait infiniment de choses sur ce qui s'y passe. Hein, et c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de montrer très discrètement que habitant avec ses parents dans un milieu très protégé, d'ailleurs, dont je parlerai, en face de la Tour Eiffel, elle se trouve à quelques mètres à vol d'oiseau du Veldiv, enfin, où elle n'est pas allée, sans doute, hein, enfin, lieu qu'elle n'a pas fréquenté. Mais c'est vrai que c'est la chose la plus étonnante, quoi, de ce journal. C'est l'histoire de quelqu'un qui, malgré son jeune âge, sait presque tout. Ça, c'est très, très, très impressionnant. L'autre chose qui est très impressionnante, je trouve, c'est que c'est quelqu'un, et sa famille aussi, qui est totalement intégré à la société française, enfin, qui est français, qui appartient à un pays. Hein. C'est un milieu aisé. Non, mais ça, il ne faut pas du tout le sous-estimer. Rien n'est à sous-estimer. Mais je veux dire que c'est quelqu'un qui appartient à un milieu qui fait que elle est française, voilà, et tout à coup elle comprend qu'elle est juive, enfin, mais c'est pas quelque chose qui la structure du tout, quoi. C'est une découverte violente, enfin, que d'autres fassent d'elle une juive, c'est ça qui est tout à fait c'est une violence qui lui est faite, hein, enfin, et d'ailleurs elle a des propos aussi qui font que, enfin, qu'on comprend et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais enfin, qui font qu'aujourd'hui aussi, son témoignage est gênant pour certains, parce que ce n'est pas quelqu'un qui se reconnaît dans l'appartenance ni au judaïsme, encore moins au sionisme.
Oui, d'ailleurs, voilà.
Elle pourrait s'y reconnaître, ça ne changerait rien, ça ne la stigmatiserait pas plus. Hein, la grande victoire du nazisme, ça a été de faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse dire... Les Juifs ont fait ceci, les Juifs ont fait cela, enfin, comme victimes, enfin, de désigner une partie de la population comme juif, c'est un héritage du nazisme. Mais ce que j'ai voulu aussi montrer, et là vous avez raison, ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'est un peu un angle mort de sa lucidité. C'est-à-dire qu'elle se sent tellement française qu'elle n'imagine pas quand même que l'État français... va être à ce point complice du régime nazi. Et donc, il y a beaucoup d'allusions au fait, dans le texte, qu'avec les Français, on pourra s'entendre, qu'avec la police française, les choses peuvent s'arranger, que le pire, c'est d'être confronté aux nazis. Et malheureusement, cette famille a été arrêtée par la police française, par le commissariat du 8e arrondissement, de même que le père, lors de la première arrestation qui l'a emmené à Drancy, a été arrêté par la police française. Enfin, et donc, je voulais montrer dans le film, en filmant la paperasse administrative, le statut des Juifs et ses différents avatars et tout ça, comment la persécution a été pas seulement allemande, mais a été française et organisée, systématisée, réglé par l'administration française. Et je tenais à montrer aussi, quand on peut le montrer, que des gendarmes et des policiers français, sur les images, les rares images souvent que nous avons de cela, ont contribué à cette entreprise d'apartheid.
Oui, il y avait un aspect aussi qu'elle écrit quand tu le citais à l'instant, c'est quand elle fait une différence entre religion et race, où elle refuse absolument de parler de race. Et ça, moi, je pense aussi que c'est très très fort, parce que bon, encore aujourd'hui,
Oui.
On entend parler de voilà de dans les milieux d'extrême droite, etc. C'est toujours la même problématique qui est soulignée. C'est pour ça que bon, moi je pense que ce film il est fort. Il doit aussi interroger les gens sur les moments de découragement qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, bon, les gens déçus de la politique de droite et de gauche se tournent vers le Front National, par exemple, qui défend des idées d'extrême droite. Et là, je pense que il faudrait peut-être être aussi lucide qu'elle l'a été Hélène Baird, on dit bien. Hein,
oui.
Parce que bon, moi, je reste quand même scotché par le fait qu'à 20 ans, on puisse comprendre et écrire les choses aussi compliquées qui n'ont pas été réglées. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des gens antisémites en France. Voilà, ça m'interroge tout ça.
Non, mais quand on regarde simplement ce délire racial qui a présidé à la persécution des Juifs, et quand on regarde comment sont rédigés les statuts des Juifs, quoi, les statuts français des Juifs, c'est un système très pervers, très tordu, quoi, parce qu'on définit comme Juifs des gens qui ont eu deux grands-parents, trois grands-parents juifs, et tout, mais sans jamais définir ce qu'est être juif, quoi. Et donc il y a ce malentendu, mais ce malentendu évidemment savamment entretenu entre religion et race. Et par exemple, on a l'exemple, vraiment c'est un exemple d'Hélène Baird, qui se reconnaît comme étant de tradition juive, parce que dans sa famille, on célébrait, on fêtait quelques fêtes juives, mais qui n'est pas religieuse, et donc qui, tout à coup, à qui on dit « tu es juive », et c'est quelque chose d'incompréhensible pour elle, parce que la tradition familiale est une appartenance, comme on peut être, de tradition catholique dans la France de cette époque, sans être pratiquant. Et elle se trouve exactement dans cette situation. Mais on lui dit, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Et donc, on voit quelqu'un qui essaye de se battre avec cette patte, cette griffe, comme ça, qui va finalement la saisir.
Peut-être que j'interprète un petit peu ce qu'elle a essayé de relater dans son quotidien, mais moi, ce que j'ai...
On est forcé d'interpréter.
Voilà, l'effet que ça a produit pour moi, c'est qu'il me semble qu'elle a compris très très tôt qu'il s'agissait d'une œuvre de déshumanisation, et dans les questions par rapport à la religion ou à la race, ou dans toutes les histoires affreuses ou moins affreuses ou très belles du quotidien qu'elle collecte, en fin de compte, j'ai le sentiment qu'elle cherche la trace de cette humanité commune dans ce qu'elle a de plus sordide et dans ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire au niveau des perceptions. Enfin, quand elle parle du printemps, quand elle parle du soleil, on dirait que elle défend bec et ongles sa condition d'être humain, qui est la même que celle des autres.
Oui, mais ce qui va tout à fait dans ce sens, c'est les paroles qu'elle a dans le journal. Là, on l'entend pas forcément beaucoup à l'égard des Allemands, c'est-à-dire que évidemment le nazisme la pétrifie de terreur, mais plusieurs fois dans le journal, elle explique bien qu'elle n'a pas de haine à l'égard des Allemands, mais à ce titre-là, parce que ce sont des personnes qui appartiennent à l'espèce humaine, à l'humanité. Enfin, et donc je pense, oui, vous savez que cette célébration de la vie, de l'humanité, elle est dans cette dimension-là, enfin, dans cette incompréhension fondamentale. Oui, c'est très vrai, c'est très vrai. Et c'est aussi la beauté de ce journal, quoi, qui n'est pas qu'un texte militant, enfin, c'est pas... C'est un texte, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que cette jeune fille vivante, elle nous tend la main et qu'on a envie de la suivre partout dans Paris, grâce à ce qu'elle a écrit. Oui. Oui, oui. Oui, enfin, on peut penser au journal du Tilsum, on peut penser au journal d'Anne Frank, mais Anne Frank, par exemple, il y a une grande différence, bon, c'est qu'elle est plus jeune, mais il y a aussi cette rage de vivre, d'être amoureuse. Le journal d'Anne Frank, il est écrit pour un ami imaginaire. Hein. Là, l'ami imaginaire d'Hélène, il est vivant, mais il est un peu imaginaire aussi. C'est Jean Moraviesky dont on sait si peu de choses en réalité. On sait qu'elle en est éperdument amoureuse, mais de lui, ce qu'il dit, ce qu'il pense, enfin moi ça me frappait en retrouvant ses photos, c'est que sur les photos, il est d'une certaine façon impénétrable, on ne sait pas bien ce qu'il... Il est assez sombre, alors qu'elle, il y a quelque chose de tout à fait vibrant qui est dans son visage, et lui, bon... Peu importe, enfin, il y a une projection qui se passe entre ces deux êtres, mais oui, non, je voulais dire que la grande différence, par exemple, avec le journal d'Anne Frank, Tilsum, c'est encore autre chose, mais le journal d'Anne Frank, c'est qu'elle est enfermée, c'est une proscrite, Anne Frank, cette petite fille avec sa famille, alors que là, c'est pas du tout le journal d'une proscrite, c'est le journal d'une jeune fille, pour ça que je voulais que le titre dise ça, d'une jeune fille en liberté, enfin, c'est une leçon de liberté tout le temps, mais elle va où elle veut tout le temps. Évidemment, l'étoile l'empêche de circuler, mais on voit qu'elle l'enlève pour aller aux Champs-Élysées alors qu'elle ne devrait pas y aller. Enfin, surtout dans la première partie du journal où elle est en compagnie de ce jeune homme qui la transporte ou qu'elle transporte et qui font que quelque chose de la loi est suspendu parce que il y a l'amour, il y a le goût de vivre qui est beaucoup plus fort. Mais ça, c'est la grande... C'est la grande différence. Elle est en liberté, elle ne se cache pas. Et ça rend sa situation étrangement proche de la nôtre. Parce que finalement, bon, voilà, en gros, on se retrouve un peu dans la même situation qu'elle. Et ça rend l'absurdité du sort qui lui est réservé encore plus insupportable, je crois. Ben Jean Moraviesky, ce qu'il est devenu, ça fait partie des toutes petites choses que j'ai rajoutées au journal, puisque enfin, je parlerai du film, mais à un moment donné, dans le journal, elle n'arrête pas de dire « Jean va partir, Jean part en Espagne » et tout ça, et donc j'ai rajouté un tout petit moment ce bout de phrase, enfin sans que vous sachiez que je l'ai rajouté, pour se battre contre les Allemands, c'est-à-dire qu'il voulait rejoindre les forces de Gaulle et se battre contre les Allemands, et ce qu'il a fait en traversant l'Espagne, et il s'est battu en Afrique du Nord, et il a survécu à la guerre, et il a survécu, il est mort que dans les années, juste au moment de la publication, ou juste avant la publication du journal. Voilà. 2000, hein, voilà, oui, c'est ça, mais comme aurait dû vivre normalement, enfin, selon les probabilités de vie, Hélène Baire elle-même, voilà. Mais, bon, tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait que c'était une famille aisée, hein, et c'est évidemment, c'est une famille de la grande bourgeoisie.
On parle plus, on s'explique plus, je pense, dans une famille aisée. On discute plus entre personnes de même famille qu'une famille, comme vous dites, une simple personne qui... Je ne sais pas, vous avez parlé de la... Je ne me rappelle plus. Du peuple, oui, voilà.
Oui, oui.
On discute plus, on a plus de réflexion, on réfléchit plus, plutôt qu'une quelqu'un du peuple.
Ça, je ne sais pas. Bah, non, je ne suis pas ça.
Moi, je pense qu'on a mis dans la tête du peuple le fait qu'ils soient...
Non, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent plus quand même, ils sont plus déjà cultivés. Il y a bien sûr des gens du peuple aussi qui y sont, mais bon, si on parle vraiment du peuple...
Oui, non, je ne crois pas. Moi, je ne dirais pas ça, parce que...
Je me suis pas mal exprimée.
Il y a des familles comme ça comparables, où tout de suite... Il y a eu le réflexe, mais parce qu'il y avait une éducation politique derrière. Ce n'est pas des gens apolitiques, hein, pourtant, les Baire. Mais il y a eu le réflexe chez des gens du peuple, comme vous dites. Enfin, en tout cas, chez des gens qui n'étaient pas forcément de la bourgeoisie, pour pour être un tout petit peu plus précis, que, par exemple, l'étoile jaune, c'était insupportable, qu'il fallait pas, quoi. Que c'était... On mettait la main dans un engrenage et qu'il fallait absolument refuser ça. Or, là, on a une famille qui accepte les choses. C'est ça qui est intéressant. Qui est, bon, on va pas lui jeter la pierre aujourd'hui. C'est comme ça, c'est un fait. Alors, on peut se demander pourquoi ils acceptent. Pourquoi ils acceptent ? Parce qu'ils peuvent penser qu'ils vont passer à travers les mailles du filet, parce que c'est inimaginable. Mais que ce qu'on va leur faire, c'est inimaginable.
Elle est lucide. Donc,
Oui, mais je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre ce que je cherche à dire.
Oui.
La mère de Mariette Job, la nièce d'Hélène Baird, est née après la guerre. Et on voit dans le journal que Denise, donc sa mère, disparaît du journal. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte dans le film, parce que le film, la lecture du journal en continu, ça dure 8h30, quelque chose comme ça. Hein. Moi, mon film parle beaucoup, il donne beaucoup la parole à Hélène Baird. Je crois qu'à 90%, on entend la voix d'Hélène. Mais ne dure qu'une heure vingt, hein, donc ça veut dire que j'ai quand même été forcé de faire des ellipses, de trouver des solutions dramatiques pour que ce journal, ça devienne aussi le carburant, l'énergie de ce film. Non, c'est simplement pour dire que j'ai pensé que Denise, la sœur d'Hélène Baird, que Denise avait été sauvée parce qu'elle avait dû quitter Paris pour accoucher. Hein. C'est-à-dire qu'elle se marie en 43, en pleine occupation. Elle rencontre ce jeune homme qui est évoqué dans le journal sous le nom de Job, quoi, qui est François Job. Et puis, bon, j'ai appris que Denise Job, étant enceinte, elle est refusée dans les hôpitaux publics, hein, parce que le statut des Juifs de l'État français interdit aux Juifs d'accoucher dans des hôpitaux publics. Hein, c'est bien. Et puis, elle va dans une clinique privée, parce que c'est des gens qui ont les moyens d'aller dans une clinique privée. Et là, c'est pareil, elle est refusée aussi, puisqu'elle est juive. Hein. Bon. Et là, elle va à la campagne, où finalement, c'est une sage-femme qui s'occupait, qui a dû faire des accouchements dans la famille, qui pratique l'accouchement. Et donc, je pensais que c'était cela qui l'avait sauvée, et qui donc avait permis à Mariette Job, la nièce, de naître après la guerre, etc. etc. Or, je pose la question à Mariette Job, qui me dit non, pas du tout. Après, mes parents sont revenus à Paris. Bon. Je dis, ah bon, oui. Mais mon père avait trouvé un appartement avenue de Versailles. Avenue de Versailles, d'ailleurs, comme par hasard, c'est un des endroits qui sera bombardé à Paris en 43, comme je le montre dans le film, à travers ces archives que j'ai reconstituées. Bon, mais là, ce n'est pas le plus extraordinaire. C'est ensuite ce que me dit Mariette Job aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, quoi, en 2013. Elle me dit, mon père avait trouvé un appartement avenue de Versailles. Il avait choisi un appartement au premier étage. Parce que comme ça, il s'était dit que si les Allemands venaient arrêter la famille, ils pourraient sauter par la fenêtre et s'enfuir. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui me dit ça avec la même conviction que celle qu'on pouvait avoir à l'époque, quoi. Sauter par la fenêtre, c'est aussi peu crédible que quand Hélène Baird imagine que les Allemands, hein, il se trouve que c'est la police française qui l'a arrêté, mais elle imagine que les Allemands vont venir peut-être les arrêter et qu'il y a plusieurs scénarios, dont le scénario de se cacher sous le lit, comme ça, comme un enfant. Donc je pense que quand le pire se produit, si on n'est pas habitué ou préparé à lutter contre le pire, il ne se produit pas, de façon monumentale. C'est une suite de marches qu'on descend. Et donc, je pense que cette famille a dû se dire pendant un moment, c'est pas possible qu'à nous, on nous fasse ça. Et puis, petit à petit, ils ont accepté des choses. Enfin, ils, comme d'autres. Et puis, il y en a d'autres. Il y a d'autres familles avec des moyens intellectuels et culturels bien moindres que ceux de cette famille Baird, qui aussitôt ont compris qu'il fallait se sortir de la souricière. Mais c'était... Enfin, encore une fois, il ne faut pas être anachronique, c'est-à-dire que faire ce genre... Enfin, c'est facile à dire aujourd'hui, mais ce n'est pas facile à faire à l'époque, parce que, par exemple, refuser l'étoile et tout ça, ça veut dire que petit à petit, on se met dans l'illégalité et que petit à petit, bah, on n'a plus les tickets de rationnement, les ceci. Enfin, qu'il faut trouver des modes de vie parallèles et que quand on est habitué à vivre normalement, vivre dans une espèce de, d'illégalité ou de clandestinité, c'est pas inadmissible, c'est inenvisageable. Il y a une chose qui est extrêmement frappante dans le journal, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses qui sont très frappantes, mais il y a une chose qui est très frappante, c'est que on sent à la fin du journal, enfin ce qu'on peut considérer comme la fin du journal, que la question se pose dans la famille de plus en plus souvent de est-ce qu'on dort ou pas dans la maison, et que visiblement la famille est divisée. Enfin, Hélène Baird, on ne sait pas, Hélène, ce qu'elle en pense vraiment. Bon, elle aime sa maison comme on aime sa maison, etc. Mais qu'il y a un débat entre le père et la mère. Et qu'à contrario, on sent qu'à un moment donné, le père dit « Écoutez, ça suffit, il faut qu'on arrête de dormir dans la maison. » C'est-à-dire que jusqu'en, je ne sais plus, en mars 44, en février 44, ces gens-là vivent chez eux. Donc, on sait qu'ils habitent là. Et la nuit, ils dorment chez eux, quoi. Et puis, à un moment donné, ils comprennent qu'il faut qu'ils soient un peu plus prudents, mais ça veut dire que dans la journée, ils sont là, et la nuit, ils sont répartis, et puis ils se font arrêter, parce qu'une nuit, simplement, ils veulent dormir dans leur lit, quoi. Il y a une chose, c'est terrible, quoi, être dans leur intimité, quoi. Et là, ils vont être dénoncés, et ils seront arrêtés et déportés. Contrairement au reste de la famille qui n'était pas à Paris, ou contrairement à d'autres gens qui ont pu vivre à Paris toute la guerre. Voilà. Mais là, je ne soulève qu'un petit coin du voile de l'histoire, hein, parce que l'histoire, elle est plus compliquée encore, je pense. Oui.
Je voulais intervenir et puis peut-être encore apporter de l'eau à ton moulin, parce que quand bon, c'est un milieu très, très, très privilégié, très fermé, va-t-on dire, quand même, parce qu'on ne fréquente pas n'importe qui et tout ça. Et je pense que dans ces milieux-là, on a l'impression d'être intouchable. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que cette jeune fille-là, qui est très lucide sur tout ce qui se passe, etc., qui est au courant, qui est informée, on n'entend pas parler, vous me parlez de cuisinière, etc. On crève la faim, les tickets de rationnement, on doit faire la queue, machin. Alors, comme tout ça passe à la trappe, c'est une vie très facile, donc c'est une vie très protégée. Donc, je me demande si dans la tête de ces gens-là, il n'y avait pas « Ben non, on sera protégé. De toute façon, on ne va pas fuir. » On va pas faire, on va pas fuir devant l'ennemi. Nous, on sera protégés, je pense, parce qu'il y a quand même une irréalité totale dans ces écrits par rapport à ce que de nombreuses personnes ont quand même vécu en ville et surtout à Paris. Non, vous croyez pas?
Oui, je pense. Enfin, sans leur jeter la pierre, encore une fois, parce qu'il y a. Il y a une réalité de la persécution, c'est-à-dire qu'ils sont en but quand même à la persécution, comment elle ne peut pas aller dans le métro, comment ils doivent porter l'étoile et tout ça. Mais vous avez absolument raison, c'est-à-dire que dans l'adaptation que j'ai faite, j'ai absolument tenu à restituer les moindres détails alimentaires, comme ça. Et ce qui m'a frappé, quand on adapte un livre comme ça, on le connaît au bout d'un moment presque par cœur, c'est qu'il n'est jamais, ces gens-là n'ont jamais faim et n'ont jamais froid. Mes grands-parents qui ont vécu cette époque de façon beaucoup moins tragique et tout ça, les histoires qu'ils m'en ont racontées, c'est au moins qu'ils avaient froid et qu'ils crevaient de faim, quoi. Et là, jamais. Il y a les petits pois qu'on mange dans la cuisine à un moment donné. Il y a la maison de campagne où on va manger les arbres du verger. Et le seul moment, et il est d'autant plus effrayant, le seul moment où il est question de nourriture et du corps, enfin du traitement du corps, c'est quand Hélène Baird se renseigne sur la manière dont les déportés vont être transportés jusqu'au camp, enfin elle ne sait pas, c'est Auschwitz, et là c'est elle qui nous donne, enfin elle nous les donne parce qu'elle les a, elle a enquêté d'une certaine façon pour le savoir, les rations, quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir, hein, et ça rend la chose encore plus violente, quoi, parce que finalement le reste du temps, globalement, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, on a des vies plus ou moins faciles ou difficiles, mais globalement, ces gens-là vivent dans des conditions comparables aux nôtres. Voilà, ils ne meurent pas de faim, ils ne meurent pas de froid et tout ça. Sauf qu'entre 42 et 44, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim et ils meurent de froid. Sans même, et c'est, ils sont dans cette irréalité, et cette irréalité d'une famille aisée, qui s'intéresse, qui se préoccupe des autres. Enfin, c'est des républicains et plutôt, comment dire, avec les catégories d'aujourd'hui, plutôt des gens aisés. Le père a fait Polytechnique, il appartient au corps des mines. Bon, il a été un combattant très brillant de la guerre de 14, tout ça. Mais c'est des gens, oui, qui s'occupent, qui ont le souci des autres. C'est-à-dire que la mère, comme les filles, travaille dans les organismes d'assistance de l'UGIF, enfin, sur lesquels on peut aussi revenir, parce que c'est un sujet compliqué sur lequel cette petite Hélène a aussi une très très grande lucidité. Mais enfin, ce n'est pas des gens qui vivent non plus dans leur tour d'ivoire. Enfin, ils ont conscience du malheur des autres, et puis rien qu'à être au contact avec les familles séparées, arrachées, mais ils appartiennent à la bourgeoisie française, et donc ils regardent les autres juifs, enfin les autres dont on leur dit qu'ils sont juifs comme eux, venus de l'étranger, comme des immigrés, comme des, enfin c'est pas les, enfin nous on a tendance à les mettre dans le même, dans la même appellation, dans la même communauté. Pour eux, non, enfin il y a j'aime beaucoup le mot que vous avez employé, d'irréalité, quoi. Il y a une irréalité très qui peut les protéger à un moment donné, et puis qui à un moment donné les protégera de rien du tout, quoi. C'est-à-dire que se sont sauvés des gens, plus pour revenir à la discussion de tout à l'heure, se sont sauvés parfois des gens qui avaient beaucoup moins ceux qui avaient un sens de la survie beaucoup plus développé, parce qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas, ils pouvaient pas être dans l'irréalité. Enfin, il y a eu plusieurs livres qui sont parus cette année. Il y a eu un livre de Marcel Cohen, très très beau, comme ça, qui raconte comment il a été sauvé parce que sa nounou a compris en venant, a eu la présence d'esprit de pas le laisser monter chez lui parce que ses parents étaient arrêtés. Il y a un autre livre d'une dame qui est la présidente de la maison d'Isieux aujourd'hui, Hélène Vesbord, qui raconte comment son père, militant communiste polonais, a eu l'instinct de confier sa fille à une famille d'agriculteurs, voilà, et puis comment elle n'a jamais revu son père, mais que son père a fait ça très délibérément. Enfin, il y a évidemment des destins singuliers qui ont été très différents les uns des autres. Et là, on peut, enfin, je sais pas, dans la révolte qu'on peut avoir à la lecture de ce journal, c'est bon, on se demande pourquoi cette jeune fille est aussi quelquefois aveugle, mais l'est-elle, je ne sais pas, mais il ne faut pas oublier qu'elle vit chez ses parents, que c'est une jeune fille plus lucide que souvent des jeunes filles de 20 ans aujourd'hui, mais qu'elle est en même temps. Elle est en même temps moins libre que ne le serait quelqu'un de 20, 22 ans aujourd'hui. Ce qui est très frappant, c'est de voir que dans le journal, c'est que le père, revenant de Drancy, miraculeusement, enfin, ou socialement miraculeusement, ne comprend pas ou ne veut pas admettre qu'il faut tout faire pour mettre sa famille à l'abri. Ça, c'est quelque chose de très, très étonnant, quoi. Il reste là. Ils restent là parce que bah, c'est leur parce que oui, ils sont protégés, je sais pas, mais ils restent là. Alors qu'on a envie de leur dire mais partez, restez pas là. Donc quelquefois être protégé, c'est être très vulnérable.
Je voulais revenir sur la façon dont vous avez travaillé pour le film. En fait, j'ai trouvé que la voix qui était prêtée à Hélène Baird était extrêmement juste. Et je voulais savoir comment s'était passé ce travail de lecture, d'enregistrement, le choix de l'actrice, etc.
Ce que je voulais, c'était qu'Hélène Baird soit l'héroïne de ce film. Donc j'ai écarté l'idée que j'ai au contraire suivi dans d'autres films de filmer des historiens. J'aurais pu parler comme on parle maintenant et filmer des ou des témoins ou des survivants ou des historiens qui éclaireraient le contexte de cette histoire ou les circonstances dans lesquelles le journal a été exhumé, publié, etc. Non, je me disais c'est formidable, on a ce texte qui est bouleversant. Et à travers ce texte, on a cette voix, et c'est cette voix que je veux faire entendre. Et donc, il y a qu'elle qu'on entend dans le film, à part le petit prologue, il y a qu'elle qu'on entend dans le film, et puis à part les deux moments d'archives sonores. Et je voulais que l'image, ce soit ce que ses yeux ont vu, quoi, ou ce que ses yeux auraient pu voir, ou ont dû voir. Voilà. Mais pour en rester à la voix, je voulais quelqu'un qui soit pas dans la déploration, dans l'accablement. Je voulais quelqu'un qui ait une énergie, qui ait une énergie de vivre, qu'on soit, ce que j'ai dit tout à l'heure, révolté par le fait qu'elle n'ait pas réussi à s'échapper. Et donc, je sais pas, tout de suite, j'ai pensé à cette comédienne qui est Céline Salette, que vous avez peut-être vue au théâtre ou au cinéma, qui est un petit peu plus âgée que ne l'est. Hélène, quoi, parce que mais qui a cette énergie et puis en même temps qui a une voix qui change au fur et à mesure des on n'a pas l'impression d'être devant d'entendre quelqu'un qui lit, on a plutôt l'impression d'être devant quelqu'un qui vit, qui dit, qui parle, voilà. Et comment ça s'est passé? Écoutez, la voix était fondamentale pour le montage du film. Et quand on fait un film qui repose sur une voix, ça m'est arrivé sur d'autres films, ben j'ai enregistré, par exemple, moi, la voix témoin. Là, c'était un peu difficile d'avoir ma voix. Enfin, déjà, quand on fait un film, d'avoir sa voix, c'est un peu difficile, mais ça permet aussi de rectifier le texte. Mais là, je ne pouvais pas rectifier le texte. Je pouvais enlever des phrases, ou je pouvais pas réécrire les phrases. Bon. Et donc... avoir ma voix, c'était, ou une voix d'homme, c'était exclu. Et tant qu'à faire, quand j'ai décidé que ce serait elle qui serait la voix du film, j'ai pu, dans son emploi du temps, avoir une demi-journée avec elle pour lui faire enregistrer la voix témoin. Et donc, sans préparation... C'est un téléphone. Donc, sans préparation, elle a lu le texte. Comme ça, elle a fait une lecture. Le texte était un petit peu plus long. La version que j'avais adaptée était un petit peu plus longue que le résultat final. Mais donc, elle a lu l'équivalent de 2 heures. Ça, on y a passé une journée ou une demi-journée. Je ne sais plus. C'est long, mais elle a fait ça comme ça dans le mouvement. Voilà. Et puis, 3 mois plus tard, quand il s'est agi d'enregistrer la voix définitive, il y avait des choses qui n'allaient pas. Enfin, bon... Elle est revenue, et puis là, on a réenregistré, puis c'était dans un autre studio, les conditions sonores étaient mieux, mais en même temps, entre-temps, Céline Salette avait travaillé pour le théâtre le monologue de Molly Bloom d'Ulysse, et sa voix avait changé. Et donc, bon, on se dit, est-ce que c'est parce que je me suis habitué, je préférais avant, enfin bref. Et puis, ben, avec un peu d'impertinence, finalement, j'ai décidé de mélanger les deux voix aux grandes dames de l'ingénieur du son qui trouvait que le premier enregistrement, on ne pouvait pas l'utiliser. Mais il y avait une qualité de spontanéité, de fraîcheur. Quelquefois, il pouvait y avoir des défauts techniques et tout ça, mais il y avait quelque chose qui avait été perdu par le fait que la voix avait changé, qu'elle connaissait mieux le texte, etc. Et donc, j'ai pu... jouer entre les deux versions, la version primitive, sauvage, et puis la version plus travaillée de la fin. Mais évidemment, un film comme ça varierait du tout au tout avec une autre voix, avec une voix moins bien, avec peut-être une voix mieux, mais je ne crois pas. Moi, je suis en admiration devant la force, le naturel, l'énergie qu'il y a dans cette voix. Mariette Job, qui était aussi dans le rôle de l'ayant droit, un peu vigilant au début, me disait non, c'est pas la voix d'Hélène. Enfin, Mariette Job est née, je sais plus, dans les années 50, donc j'essayais de lui dire, mais Mariette, vous l'avez jamais entendue, votre tante, quoi. Mais bon, ça fait partie de la déformation professionnelle de l'ayant droit, de penser mieux connaître les personnes, les membres d'une famille auquel on appartient que d'autres, et trouver la voix un peu vulgaire, un peu ceci, cela, d'après ce qu'on lui avait dit. Et puis finalement, au bout d'un moment, peut-être, c'est pas la voix du tout d'Hélène Baird. Hein, si j'ai rencontré une de ses compagnes d'Auschwitz et tout ça, bon, qui pourrait aujourd'hui, mais se souvient-elle vraiment de comment était la voix d'Hélène? J'en sais rien, mais je pense que c'est devenu la voix d'Hélène. Merci Céline. Oui, j'ai commencé à parler des images. Tout de suite, quand le projet de ce film m'est venu, ou m'a été donné plutôt, tout de suite j'ai voulu faire quelque chose que je rêvais de faire depuis très longtemps, d'utiliser massivement, presque systématiquement, des images de films amateurs. Parce que j'aime beaucoup ça, quoi. Il y a une légèreté, il y a une intimité, une maladresse et tout ça que je trouve très, très, très intéressante. Mais alors je me disais un peu naïvement, il existe des images amateurs tournées à Paris sous l'occupation, mais sans doute il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas suffisamment, et donc j'utiliserai des images d'archives officielles tournées avant la guerre ou après la guerre. Enfin, si on a des plans tournés au petit matin ou à la nuit, dans certains quartiers, il n'y a pas de différence, voilà. Sauf que le cinéma n'aime pas beaucoup le mensonge, même si c'est un instrument quelquefois qui permet de mentir, en tout cas de raconter des histoires. Et donc les images qui étaient antérieures à 40, en tout cas à l'occupation, ou des images qui étaient postérieures à la libération, tout de suite on voyait, ça jurait, c'était pas possible, quoi. Donc c'était mais bon, en même temps, par chance, ça m'a permis, de cette conviction que j'avais, de vendre la peau de l'ours, quoi. Quand on veut faire un film, on vend la peau de l'ours, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va pouvoir faire et avec quels moyens, mais on est sûr de l'énergie qu'on va déployer pour arriver à ses fins. Et donc, ça, ce que j'ai raconté était suffisamment convaincant pour qu'on dise, bon, d'accord, ça a l'air un peu risqué, mais on va le faire, voilà. Mais par chance, l'assistante qui travaillait avec moi et qui a fait toute la recherche d'images documentaires a retrouvé beaucoup plus d'images que ce que je pensais. Alors, beaucoup plus, y compris des images en couleur, hein, parce que je n'ai pas précisé que moi, j'aime pas du tout la colorisation et tout ça, et que les images qui sont en couleur dans le film, c'est des vraies images en couleur. Comme les images en noir et blanc, c'est des images en noir et blanc, de même qu'elles sont au format, que le format n'a pas été changé. Et quand je les ai commencé à les regarder, j'avais un peu une impression de lassitude, parce que les images amateurs filment toujours la même chose. Filment la Tour Eiffel, filment l'Opéra, filment les Champs-Élysées. Et donc vous voyez ça, vous dites, ah, encore l'Opéra, encore le Sacré-Cœur, encore, bon. Et puis après, quand on met tout ça à plat, on se rend compte que ben, y en a qui filment beaucoup mieux que d'autres. Il y en a qui pensent que filmer, enfin, y compris parmi les amateurs, filmer, ça consiste à faire de la photo en mouvement. Alors donc, on a un mouvement comme ça à toute vitesse sur la Tour Eiffel, qui est inutilisable. Puis il y en a d'autres qui comprennent que le cinéma, même amateur, c'est du temps, c'est être sensible au temps, c'est filmer du temps. Et donc, il y a des cinéastes qui font des plans longs. Et bon, alors petit à petit, on met ça de côté. Et puis on met de côté ce qui s'accroche, ce qui résonne avec le journal Hélène Baird. Il n'y a jamais de plan qui a été fait pour le journal, mais il y a ce qui se passe au Quartier Latin, ce qui se passe aux Champs-Élysées. Par contre, j'aurais voulu trouver des images tournées dans le 3e arrondissement ou dans le Marais à Paris. Il n'y en a pas, il y a des photos, mais il n'y en a pas, quoi, voilà. Enfin bon, à partir de ça, j'ai construit le film, j'ai remonté ces séquences. J'ai, de même que j'ai mélangé la couleur au noir et blanc, J'avais l'idée aussi de retrouver dans les photographies à l'époque, notamment les photos d'un photographe, des séquences de photos. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien mélanger la photo au film. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à un moment donné ce qui est animé, ce qui est inanimé, ce qu'on a vu, ce qu'on a cru voir, si c'était en couleur, si c'était en noir et blanc. Ça joue beaucoup le film là-dessus, sur ces illusions, sur ces mirages qu'on peut avoir. Et puis, à propos de mirage, il y a des petits moments merveilleux comme ça, comme la séquence où Hélène raconte sa vie future, imagine sa vie future. Elle se promène sur les quais de la Seine et j'ai trouvé ces images qui sont... Il y a le capuchon de du boîtier de la caméra qui tombe et tout ça. Ces défauts deviennent des qualités, je trouve. Ça rend l'image encore plus précieux, parce qu'on se dit, ah, c'est merveilleux, on les a, quoi. Et puis, on sait que le bonheur dont parle Hélène, c'est un bonheur qui risque d'être perdu, que c'est le paradis, mais que c'est perdu. Et donc, tous les défauts des images amateurs, on peut les récupérer et les utiliser. Voilà. Mais en même temps, ce que je ne dis pas du tout, c'est que c'est des images, d'une certaine façon, volées. C'est-à-dire volées. Elles n'ont pas été volées parce que je vous assure qu'aujourd'hui, ça coûte cher, les images amateurs. Donc, on les achète, on les paye cher, etc. Mais volées, dans la mesure où, voulant voir ce que Hélène avait pu voir, et je ne parle pas des petits films de famille que j'ai remontés, où on a l'impression de voir sa vie à Aubergenville, mais il n'y a pas de... Ce que je ne dis pas, c'est que le matériel visuel, au départ, il est très limité. Il y a quelques photos de famille et c'est tout. Il n'y a évidemment pas de films de famille. Et donc, il y a ces films de famille qui peuvent donner l'impression qu'une jeune fille ouvre la porte à la campagne, va cueillir des cerises dans un jardin. Enfin, toutes choses qu'on a fait un jour ou l'autre et qui nous donnent ce sentiment de la campagne, du plaisir d'être dans la nature. Mais les images qui sont dans Paris sont des images volées. Ce sont des images que j'ai volées aux voleurs. C'est-à-dire que dès que les Allemands arrivent à Paris, en juin 40, l'une des premières mesures, c'est d'interdire de photographier et de filmer Paris pour des raisons de sécurité, etc. Et ça veut dire que l'essentiel des images tournées à Paris... Il y a sûrement, comme la promenade sur les quais, des images qui ne sont pas de ce statut. Mais l'essentiel des images tournées dans Paris sont des images tournées par des Allemands, par des officiers ou des soldats allemands qui avaient ces petites caméras qui tournaient en couleur ou en noir et blanc. Et donc, c'est en volant ces images volées à Paris que j'ai fait le film. Donc, il y a ça et puis il y a... ce que j'ai filmé dans un appartement qui est très voisin de celui de la famille. Voilà, il y a d'autres sortes. Mais je vous laisse poser quand même d'autres questions et je ne vais pas parler de manière ininterrompue. Même Dominique ne peut plus en placer une, alors ce qui est quand même un comble.
Ah, pas du tout. Non, pour moi, au contraire. Je souhaite que toutes les rencontres soient comme ça. Voilà, une question. Et puis hop. Non, bon... Parce que bon, tu n'as pas fait que ce film, donc tu as écrit aussi des livres. Non. Et justement, on parlait tout à l'heure par rapport au film de ces gens qui ne voulaient pas voir, qui nient la réalité. Et pour parler, par exemple, du mur de l'Atlantique, tu retrouves le même phénomène, c'est-à-dire que le mur de l'Atlantique, c'est-à-dire la fortification de la façade maritime de la France. Dans l'esprit commun, c'est les Allemands qui l'ont fait, et voilà. Or,
et pour moi aussi, avant de faire le film et le livre, je sais pas, si vous êtes posé cette question, mais tout le monde a vu des bunkers le long des blocos, le long des côtes et tout ça. On les tague aujourd'hui, il y en a qui tombent en ruine, mais c'est parce que l'érosion a raison d'eux, mais sinon c'est de la bonne construction, voilà. Et comme tout le monde, ou comme la plupart d'entre nous, d'entre vous peut-être pas, peut-être que vous êtes plus éclairés que je ne l'étais, mais c'était les Allemands, oui. Et puis un jour, en lisant un livre sur les patrons sous l'occupation, pas du tout un livre sur le mur de l'Atlantique, je comprends que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin, comme toujours. L'histoire a la vertu de nous dépayser. L'histoire est toujours plus compliquée et plus, l'histoire n'est pas simpliste. Et donc, évidemment, ce n'est pas les Allemands qui ont construit le mur de l'Atlantique. Évidemment, ce sont les Allemands, l'organisation Todt, qui a dirigé le chantier. Mais quand on a un chantier de cette importance-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler les entreprises locales. Les entreprises locales, ce sont les grandes entreprises de travaux publics, les grosses entreprises, ou les petites entreprises locales, le petit maçon, le petit électricien, le peintre, le chauffagiste du coin. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la construction du mur de l'Atlantique. C'est-à-dire que le chantier a été piloté par l'organisation Todt, mais a été l'œuvre des grosses entreprises du bâtiment français et toutes les entreprises locales qui ont trouvé là un moyen de travailler et de vivre. Voilà. Et donc, j'ai eu l'impression d'être comme le diable boiteux, comme ça, de soulever la toiture et de me poser des questions que finalement très peu de gens se sont posées. Oui, comment ça a été fait et là, je suis allé un peu de surprise en surprise parce que j'ai découvert que contrairement, il y a les entreprises, mais il y a aussi la main-d'œuvre. Et ce qu'on entend beaucoup dans les films à la télévision, dans les musées, les audiovisuels des musées, c'est que le mur de l'Atlantique a fait travailler des travailleurs forcés, des travailleurs requis, des esclaves, etc. Bon, c'est vrai, c'est pas faux, mais ça a aussi fait travailler des travailleurs libres, entre guillemets, parce que les salaires proposés là, parce qu'il y avait des salaires, parce qu'il y avait du travail, et parce que les salaires étaient supérieurs à ceux qu'on pouvait trouver dans le secteur qui n'était pas très prospère à l'époque parce qu'on ne construisait pas beaucoup d'immeubles ou de maisons. Et donc, je suis arrivé à un tableau beaucoup plus complexe, beaucoup plus sidérant, là encore, que ce que j'imaginais avant. Bon, j'ai mis 10 ans à faire ce film parce que quand j'y ai pensé, on m'a dit « Oh non, non, ça n'intéresse plus personne, l'occupation, ça n'intéresse plus personne, et tout, et tout. » Bon, puis quand je suis revenu 10 ans plus tard à charge, à ce moment-là, c'était devenu très intéressant, mais le projet, il n'avait absolument pas changé. Entre-temps, des historiens s'étaient beaucoup plus penchés sur des aspects locaux de cette histoire, quoi. Voir comment, en Normandie ou en Gironde, des entreprises forestières avaient été mises à contribution, comment la main-d'œuvre avait été utilisée, comment voilà. Mais alors, ce qui m'a absolument surpris, c'est que la question, enfin, c'est une question qui nous regarde. Évidemment, il y a là la question de la collaboration qui est toujours difficile, quoi. Et d'ailleurs, les historiens du BTP, les historiens des entreprises, en général, ils n'aiment pas parler de collaboration, quoi. La collaboration, on dirait que c'est réservé à ceux qui ouvertement ont prôné une alliance avec le nazisme, ceux qui ont professé des opinions nazies, mais que les entreprises, ben, elles n'en avaient rien à faire, que ce soit le nazisme ou pas le nazisme, les affaires sont les affaires. Et donc, ce n'était pas de la collaboration, c'était de la coopération, c'était... mais sans porter de jugement de valeur, c'est un exemple, c'est un chantier exemplaire, enfin exemplaire au sens modèle, de la collaboration économique mise au point par le Reich, le Troisième Reich en France. C'est tout. Il y a pas... Après, il ne s'agit pas de juger ou d'absoudre ou de condamner, parce que c'est ridicule si longtemps après, mais simplement de dire, voilà, ça a été fait comme ça. Et ce que je trouve sidérant, c'est notre aveuglement à nous. Je parlais d'aveuglement tout à l'heure pour vous aussi, par rapport à Hélène-Bert, mais là, c'est notre aveuglement à nous, notre amnésie à nous. Au lieu de voir un bloco, c'est de se dire, ah ben oui, ça a été fait comme ça. À 90%, on se dit, c'est plus confortable pour nous, mais pourquoi c'est plus confortable? C'est étrange. Ce sont les Allemands qui ont construit ça.
Oui, mais peut-être aussi parce que, bon, le problème s'est posé à la fin de la guerre quand même, oui. de la collaboration ou pas collaboration. Il y a quand même des entreprises qui se sont fortement enrichies. Et or, au niveau de...
Il n'y a pas quand même, il y a des entreprises qui sont fortement enrichies. Oui. En, Il y a des grosses entreprises qui ont survécu, qui ont passé le cap de l'après-guerre tranquillement. Mmh. Mais aussi, il y a eu, je ne sais plus, en 43, je crois, il y a la création de 1000 entreprises, de petites entreprises, parce que les Allemands, ne recrutant pas de la main-d'œuvre directement, le faisaient recruter par des sociétés intermédiaires, par des sortes de sociétés d'intérim, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont dit, mais c'est l'aubaine, quoi. Il y a de l'argent à se faire.
Oui, mais bon, collaboration, c'est quand même bon. Il y a de l'argent à se faire, mais déjà, c'est bon. Les travaux ont été faits sous la direction des Allemands à travers le TOD, l'organisation TOD, OT, OT comme l'Office du Travail. Et, mais en même temps, ils ont été payés avec de l'argent versé par le gouvernement français à l'Allemagne. En gros, c'est non seulement on a fait ces trucs-là, mais on les a payés, et les entreprises qui se sont enrichies en collaborant avec l'Allemagne n'ont absolument pas... Enfin, c'est dérisoire. Même dans ton livre, il y a des gros qui sont passés à travers, hein, parce qu'il fallait reconstruire, donc il y a un tas de bonnes raisons. Mais donc, ça n'a pas été vraiment traité à fond, la collaboration au niveau des bâtiments, des travaux publics, ça n'a pas été très loin. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'ensuite, après, on organise l'amnésie. C'est-à-dire que si, voilà, c'est plus facile pour la population française de dire, bon, ben voilà, tu t'appelles ce monument de collaboration qui est la construction, ce truc-là, de toute façon, on ne l'a pas sanctionné, la collaboration, quasiment pas. Hein. Donc, eh ben, après tout, si on n'en parle plus et que c'est une page... voilà, dont on ne fait pas de publicité, elle sera effacée. Et, or, le travail que tu as fait, notamment avec ce bouquin, c'est quand même assez édifiant de voir comment un pays... Parce que, bon, en gros, le problème du chômage a été réglé par les travaux du mur de l'Atlantique. En plus, on apprend d'autres trucs qui m'ont scié. C'est que, par exemple, le gouvernement français de Vichy, quand il y a eu le premier débarquement à Dieppe, et que ça a été un fiasco, le gouvernement français était partisan de participer à la défense, non seulement à la construction, mais à la défense du territoire contre les alliés. C'est-à-dire que bon, la collaboration de Vichy, ça allait jusqu'à dire non seulement on va construire ce truc-là, mais non, on est prêt à dire que c'est les Français qui vont prendre en charge la construction de certains blocos, mais en même temps de les défendre. Et ça, moi, je me... c'est l'amnésie... Elle va très loin à ce niveau-là, quoi.
Il y a deux choses. Il y a que, une fois de plus, comme pour le système de persécution des Juifs, avec des enjeux matériels, pas des enjeux humains, mais comme souvent, le nazisme aidé de Vichy a mis au point des machines extrêmement perverses. Et donc, le côté pervers de la construction du mur de l'Atlantique, c'est un moyen, je ne sais plus, il y a un historien, un urbaniste qui s'appelle Paul Virilio, qui a le premier un peu de tapé dans la fourmilière, qui a écrit un livre qui s'appelle Bunker Archéologie, que j'ai rencontré, et il m'a dit, mais le mur de l'Atlantique, j'ai trouvé cette formule très bien, c'était fait pour occuper les gens, enfin, c'était fait aussi pour... parce que c'est une forteresse... fantasmagorique, c'est-à-dire que imaginez que les alliés allaient venir par les côtes par l'Atlantique, par exemple, c'était quand même assez impensable, mais il fallait, dans un souci de propagande et dans un souci d'occupation, mais d'occupation au sens où on occupe les gens, la tête des gens, ce qui est toujours d'actualité, les occuper dans un projet totalement irréel, mais peu importe. Mais ce qui est sidérant aussi, c'est que l'argent, c'est ce que tu rappelles, l'argent qui a servi à construire le mur de l'Atlantique, on peut se dire, les Allemands ont mis de l'argent là-dedans. Non, ils n'ont pas mis de l'argent. Ils avaient condamné la France à des indemnités d'occupation tellement importantes, deux fois le budget de l'État, que pendant 2 ans, il y avait tellement d'argent qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc, la construction de du mur de l'Atlantique a été financée par les Français, par les impôts supplémentaires imposés aux Français pour un but défensif militaire allemand. Voilà. L'autre aspect, c'est la question de l'épuration. C'est que je pensais, moi aussi, que l'épuration n'avait pas eu lieu quoi, avec les entreprises. Mais quand on regarde, et puis maintenant, les historiens peuvent beaucoup mieux regarder ce qui s'est passé parce qu'ils ont accès aux archives des comités d'épuration qui ont été ouvertes et tout ça. On se rend compte qu'il y a eu vraiment une volonté, à l'échelon local, une volonté très forte d'épurer, comme ça, de rendre justice. Simplement, les procédures où ont été menées à leur terme, où elles ont été, où les entreprises ont été exonérées à un moment donné pour des raisons simplement de realpolitik, c'est-à-dire qu'il y avait un chantier colossal qui était la reconstruction en France, et que les entreprises, paradoxalement, les entreprises qui avaient le plus collaboré au sens large du mot, mais collaborer sans vouloir nécessairement participer au but militaire suivi par les Allemands. Mais les entreprises qui avaient le plus collaboré étaient celles qui avaient le plus fait fonctionner leur outil de travail et donc l'avaient le plus entretenu. Et donc c'était celles qui étaient le plus équipées pour participer à la reconstruction. Et donc c'est ces entreprises-là qui ont reconstruit la France après la guerre.
Non, mais je suis bien d'accord avec ça, mais politiquement, il y a des réponses. Ils peuvent nationaliser, par exemple, les entreprises qui ont collaboré.
Oui. Ben, il y a des réponses économiques, il y a des réponses politiques, mais ce que je trouve sidérant, alors là, je reviens en plus sur le mot sidérant, parce que cette période, elle est sidérante, quoi. Pour moi, elle continue, la période 40-44, parce que je pense qu'elle n'a pas été traitée en France comme elle l'a été traitée sans doute en Allemagne, enfin, qu'on fait comme si on savait ce qui s'était passé, mais que je pense que Vichy n'est pas passé quoi, en France, et que ça explique beaucoup de choses, quoi. Parce qu'on a été, grâce à De Gaulle, on a été du côté des vainqueurs, tout en étant du côté de ceux qui avaient collaboré avec les nazis à cause de Pétain et de Laval. Donc il y a une espèce de schizophrénie, de dualité, quoi. On est à la fois du côté des bons et des méchants, et donc c'est compliqué. Donc on préfère ne pas regarder l'histoire en face. Mais ce que je trouve totalement étonnant, quoi, c'est il y a 70 ans. On peut quand même regarder l'histoire plus tranquillement. Et ce qui s'est passé il y a 70 ans, il y a des grandes zones d'ombre comme celle-là. Et c'est ça que je trouve étonnant, mais des grandes zones d'ombre qui nous mettent en cause nous-mêmes. Pourquoi ne voulons-nous pas savoir ce qui s'est passé quelquefois? C'est ça qui est étonnant. Je trouve le mur de l'Atlantique, on a ça sous les yeux dès qu'on va se baigner l'été et tout ça. Et on ne se pose pas la question, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas des questions aussi aveuglantes? Voilà. Personne. Vous voulez dire quelque chose? Je vais peut-être. Oui, bien sûr. Oui. Plus que d'autres. Plus que d'autres. Oui.
Et pour faire un lien entre le film et puis ce livre, dans le film, on voit à un moment une intervention de Laval qui explique ce que c'est que la relève. Hein, la relève, c'était les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc, le deal qui était passé, c'est qu'on envoyait trois ouvriers en Allemagne et il y a un prisonnier qui revenait. C'est ce qu'expliquait Laval dans son. En gros, ils avaient obtenu de Hitler c'est ça aussi dans le discours. C'est incroyable quand même ces choses-là.
Ben, Laval, qui était un homme politique français de centre droit, comme il y en a eu beaucoup d'autres et tout ça, n'était pas antisémite par exemple, contrairement à Pétain. Enfin, simplement, c'est un homme qui a pensé avec là aussi beaucoup d'aveuglement que le destin de l'Europe était allemand et que le vainqueur allait être l'Allemagne et qu'il fallait être du côté, il fallait s'asseoir à la table du vainqueur, il fallait être du bon côté. Et donc il n'a eu de cesse pendant les 2 ans où il a été au pouvoir, de montrer sa bonne volonté aux Allemands, non pas qu'ils partagent leur but idéologique nécessairement, mais ils pensaient qu'il fallait être de ce côté-là, de celui qui serait le plus fort en Europe, en oubliant que les Allemands étaient des nazis quoi, à l'époque. Et donc ça l'a amené à être sans arrêt dans des entreprises de troc. Donc là, on troque un prisonnier contre des ouvriers, on troque des juifs étrangers contre des juifs français, on troque des policiers contre des résistants, je sais pas, enfin, on fait du troc, quoi, voilà. C'est quelqu'un qui a essayé de faire du troc et de jouer au plus malin avec les Allemands, mais ça ne lui a pas réussi, enfin, voilà.
Ça n'a pas réussi, mais bon, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas eu, moi, à mon avis, de...
Les gens qui ont travaillé avec lui et tout ça, ouais. c'est un moment très intéressant parce que c'est un moment de modernisation aussi de l'administration française. C'est-à-dire qu'il est entouré d'une jeune garde, de hauts fonctionnaires ambitieux qui sont contents de ne plus avoir à rendre des comptes à la représentation nationale, aux parlementaires, etc. et qui peuvent être efficaces. Et donc, il y a autour de... Enfin, Bousquet est un exemple parfait de ça. Et c'est un fonctionnaire efficace. C'est pas un fonctionnaire comme comment ? Zélé, ouais. Mais efficace d'abord. Ils se disent voilà, il faut faire ça. On est dans cette situation, on résout le problème comme ça. Ce qui fait que des années après, quand on voit des gens comme Papon, d'une certaine façon, dans leur cortex comme ça, ils ne comprennent pas. Ils ont fait le job quoi. Ils ont fait le job. Enfin, ou comme dit Ellenberg. Elle interroge le gendarme.
Je fais mon devoir.
J'ai fait mon devoir, quoi, voilà. Ouais. J'ai fait mon devoir, ça.
Mais c'est là que ça craint, parce que bon, moi,
ça craint
le pâté, ça pue le facho,
ça pue pas le facho. C'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les fachos, mais il y a aussi les autres qui peuvent aboutir à des comportements encore plus terrifiants. Que les fachos, on sait ce qu'ils pensent. Là, c'est des gens dans une autre situation, ils penseraient des choses tout à fait acceptables. Enfin, ils ont été aux affaires ensuite.
Oui, mais moi, je vois que...
Mais c'est pas des fachos.
Non, c'est pas... Bon, moi, je veux bien qu'on les appelle autrement, mais par exemple, la police française qui a participé aux rafles, qui a organisé les rafles, hein, je n'ai même pas participé, qui a organisé les rafles...
Une police fasciste, quoi.
C'est vrai, mais n'empêche, ils ont fait ça. Et des années un peu après, quand il a s'agi de réprimer une manifestation pacifiste d'Algériens, hein, qu'on a assassiné en veux-tu, en voilà, dans les commissariats français, là aussi, il y a eu pendant un grand moment. Il a fallu le roman de Didier Denac, Meurtre pour mémoire, pour que des historiens commencent à travailler et qu'on se rende compte que les 3 morts de la manifestation annoncée dans Le Monde le lendemain, hein, c'était plusieurs centaines d'Algériens qui avaient été tués, noyés, tués dans les commissariats français. Donc moi, je me dis que l'amnésie par rapport à ces trucs-là, c'est peut-être pas des fachos, mais je m'en fous qu'on les appelle pas des fachos. Moi, je me dis demain, quand nous, dans une période comme aujourd'hui où la misère fait le lit du fascisme, eh bien, quand le Front National sera comme c'est d'ailleurs en train d'advenir si on fait pas attention, c'est-à-dire qu'il est encore temps d'arrêter le massacre, mais bon, dans n'importe les petits villages, etc., on se rend compte que bon, le nombre de voix du Front National il monte, et là c'est pas des fachos non plus, c'est pas que des fachos qui votent Front National, mais n'empêche que quand un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, ça permet à des gens, notamment quand ils sont dans les commissariats, etc., de réprimer différemment les manifestations de contestation, etc. Et là, même si c'est pas des fachos, le résultat, notamment pour nous, c'est ceux qui sont en face, c'est un peu la même chose, quoi. Je suis un peu radical là, mais bon, je pense que bon, on a parlé beaucoup de ne pas voir,
Oui, c'est la grande question.
Ouais. Voilà. N'est-ce pas, le silence des pantoufles est plus inquiétant que le bruit des bottes. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc il faut être vigilant, Et moi, je pense que le fait de regarder des films comme ça, ou de réaliser des films comme ça, de faire en sorte qu'on puisse les voir dans des réunions comme celle-ci, de lire le mur de l'Atlantique, voilà, ça nous fait nous interroger sur du passé qui se représentera, forcément sous une autre forme, mais les questions se représenteront et ce sera à chaque citoyen de réagir. Et ben voilà, et il faudra peut-être que ce jour-là, on ait appris à être vigilant et à ne pas oublier les leçons d'histoire et puis à se rendre compte des choses avant qu'elles adviennent. C'est-à-dire que ce n'est pas quand le fascisme est au pouvoir qu'il faut réagir. C'est le fascisme, ça s'écrase dans l'œuf, j'ai dit toujours moi. Voilà, donc il faut être plutôt vigilant. Donc moi, c'est pour ça que je suis un militant politique, hein, anarchiste, je le revendique. Et je pense que ce travail que tu de retour sur le passé eh ben, nous permet, non pas de devenir anarchiste, c'est pas le but, mais en tout cas nous permet de nous poser des questions et d'apprendre à regarder l'histoire et surtout d'appréhender le présent et l'avenir en fonction de ce qui s'est passé. Tu n'es pas d'accord avec ça? Tu es d'accord?
Si, je suis d'accord avec ça. Non, je pense, pour être dans une discussion comme ça fine, que le passé ne se répète pas exactement, que l'histoire ne se répète pas exactement. Donc, il ne faut pas se dire « Ah ben, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc ce n'est pas, c'est pas exactement ça. » Et je ne suis pas pour mettre tout dans le même panier, même si l'ennemi est le même. C'est-à-dire que je pense que tout n'est pas facho, quoi. Mais c'est pas parce que je sais pas, Laval pour prendre quelqu'un qui a disparu depuis longtemps, qui nous embête plus, c'est pas parce que Laval n'est pas facho ou n'était pas facho qu'il n'était pas encore plus dangereux que les fachos. C'est ça, moi, qui me fait peur. C'est-à-dire que la technocratie, elle déguise des comportements foncièrement antidémocratiques qui sont, pour reprendre, qui peuvent être, manifestés, exprimés, pour reprendre le titre d'un livre, pourtant ça va vous étonner que je le cite, d'un romancier qui est Alexandre Jardin. Il a écrit un livre sur son grand-père, Alexandre Jardin, qui est un auteur de romans plutôt à l'eau de rose, enfin on peut aimer. Et il a écrit un livre sur sa famille et notamment sur son grand-père qui s'appelle Des gens bien, parce qu'il s'est rendu compte, et ça c'est un type plutôt de droite, hein, c'est pas Alexandre Jardin, c'est pas la question, mais il s'est rendu compte que son grand-père, Jean Jardin, enfin ce qu'on sait depuis longtemps, était le directeur de cabinet de Pierre Laval. Et à un moment donné, ça lui est apparu insupportable qu'on continue à dire que son grand-père n'était au courant de rien. Lui aussi a été aveugle, qu'il n'était pas au courant des rafles qui se sont produites quand Laval était au pouvoir, que tout ça. Et donc, il a voulu démolir la statue du grand-père, et la statue du mec bien qui était son grand-père, qui a fait ce qu'il a pu pour ne pas trop tremper sa cuillère dans la marmite du diable, quoi. Et il a écrit un livre comme ça, très violent, pour dire qu'il y a un moment donné, quand on est à une certaine position, on ne peut pas être ignorant, on ne peut pas ignorer que c'est un mensonge de dire ça, quoi. Et donc, voilà. Non, je suis pour ne pas tout mélanger, mais je ne suis pas pour maudire les uns et être indulgent avec les autres. Je pense qu'il y en a qui sont... Enfin, je pense que quelqu'un comme Papon, mais il y en a eu d'autres comme ça, était quelqu'un d'extrêmement... Évidemment, il y a des salopards comme les miliciens, pour parler de cette époque. Mais Papon l'a montré justement avec la guerre d'Algérie, avec les événements d'Algérie. Était un haut fonctionnaire loyal. Et quelquefois, il y a des hauts fonctionnaires loyaux qui sont extrêmement dangereux.
Ah oui, non, mais j'ai des gens qui font leur devoir, déjà, les moi, gens je qui pense, font leur devoir, sont des gens dangereux. Voilà. Parce que si on leur demande d'aller arrêter un enfant de plus de 5 ans,
ou moins de 5 ans,
et qu'ils le font, je pense que quelque part, les gens qui renoncent à penser par eux-mêmes sont des gens dangereux. Je crois qu'on pourrait résumer plutôt comme ça, de la même façon qu'effectivement, qu'on dit, même si c'est pas des fachos, effectivement, il faut voir les situations et ce que deviennent les gens dans certaines situations. Donc, comme on le sait, hein, que l'homme est capable du pire comme du meilleur, eh bien, je pense qu'il faut créer des situations où il sera plus à même de produire le meilleur que le pire. Et je pense que c'est là où aussi que bon, nous, on a notre position à tenir, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais mettre quelqu'un qui pourrait devenir facho dans une situation où il le peut. Moi, c'est pour ça que ma principale lutte, c'est contre le pouvoir. Alors, c'est pas une lutte contre telle partie ou telle partie, d'autant plus qu'aujourd'hui, bon, je veux dire, on a du mal à faire la part des choses. J'ai appris que le Parti socialiste était de gauche. Bon, quand on est pour l'économie de marché, je pense que on est pour le capitalisme. Et quand on est pour le capitalisme, on n'est plus anticapitaliste. Et quand on n'est plus anticapitaliste, on n'est plus de gauche. Donc, le Parti socialiste s'appelle toujours Parti socialiste. Bon, il y a des choses comme ça qu'il faudra qu'on nous explique plus longtemps. Mais pour revenir un peu, j'allais dire, à nos moutons, à nos murs, tu n'as pas... jusqu'ici, on te connaissait plus pour des travaux sur des documentaires, sur des films documentaires, des essais, notamment on va quand même parler de Gérard. C'est une étroite collaboration qui continue, parce que bon, vous avez fait une série de plusieurs heures. Hein,
35 heures, oui.
Ouais, c'est ça, 35 heures, j'allais dire 36. Mais, ouais. Bon, et sur l'origine et le christianisme. Bon, aujourd'hui, vous retravaillez sur le pendant, mais par rapport à l'islam.
Oui.
Hein, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Et après, comme l'heure passe et qu'effectivement, ça serait bien qu'on ait un petit moment pour manger ensemble et permettre aux gens d'acquérir les quelques livres qu'on a de toi, que tu puisses les dédicacer et puis peut-être partager plus intimement entre quatre yeux. On pourra juste dire un mot pour présenter le premier et unique, je pense.
Ah bah unique, je sais pas.
Non, mais à ce jour. Ou alors tu nous annonces que tu en as sorti un qui va sortir sous presse.
Non,
on a fait un scoop là.
Oui.
Voilà. Mais donc on en dira un mot là avant, mais par rapport à cette collaboration avec Gérard Mandillac. Nous connaissons.
C'est un monument de la collaboration.
Gérard Mandillac, oui, mais c'est la collaboration à nos œuvres. Il est bienvenu de collaborer. Il est même invité à continuer à collaborer.
D'ailleurs, Gérard, que certains d'entre vous connaissent, on adore faire des farces. Et donc, il a fait une farce. Je ne sais plus s'il avait téléphoné ou écrit. Je crois qu'il a téléphoné au patron des éditions de Noël quand le livre est paru, en lui disant vraiment bravo d'avoir publié ce livre. Enfin, on rend hommage à ceux qui ont collaboré dans le bâtiment, à ceux qui ont construit le mur de l'Atlantique, tout ça. Et l'éditeur, qui n'était pas du tout adepte de ce genre d'idée, était totalement effrayé.
T'es fait convoquer le lendemain.
Tous les deux, on travaille à nouveau sur la lancée de nos précédents films, mais toujours autour de parce que longtemps on nous a dit bon, c'est bien, vous en prenez au christianisme, mais quand est-ce que vous en prenez à l'islam, enfin, comme si notre geste critique était un geste destructeur. C'est pas un geste destructeur, c'est un geste de compréhension comme ça, de comment on peut faire l'histoire d'une religion. Et donc, pendant longtemps, on a dit l'islam, c'est pas du tout notre tradition, notre culture. Et puis en plus, il n'y a pas de chercheurs, il y a très peu de chercheurs d'origine musulmane qui accepteront de parler, etc. Bon, puis à force de dire non, un jour, on s'est rendu compte qu'on pouvait dire oui. Quand on a compris qu'il y avait un moyen d'accès pour nous, qui était la figure de Jésus, qui est un personnage important du Coran, qui est cité une dizaine de fois, ainsi que Marie, sa mère, qui est vierge aussi dans le Coran. Et donc, à partir de la figure de Marie et de Jésus, enfin de Jésus surtout, et de Marie, on s'est dit qu'on pouvait faire une sorte d'archéologie de l'islam, c'est-à-dire essayer de trouver comment il y a autant d'allusions, de références bibliques dans le Coran, comment il y a des textes chrétiens, de chrétiens apocryphes en particulier, mais de textes chrétiens qui sont dans le substrat du Coran, et comment à partir de là, en réalité, on pouvait s'intéresser aux conflits qui très très violent qui va opposer les trois branches du monothéisme, le judaïsme, le christianisme et ensuite l'islam, et comment à l'origine de l'islam il y a un affluent juif et un affluent judéo-chrétien extrêmement important. C'est pas uniquement, enfin il y a un père de l'Église, le dernier père de l'Église, qui s'appelait Jean de Damas, qui voyait dans l'islam qui venait d'apparaître. Lui, il est au 8e siècle, il est quelques dizaines d'années après l'émergence du Coran, et il voit l'islam naissant comme une hérésie du christianisme. Il ne s'agit pas de voir l'islam comme une hérésie du christianisme, mais en même temps comme une réponse à ce que les premiers musulmans ont considéré comme une déviation du monothéisme. L'islam, c'est un retour à la religion d'Abraham, à la pureté du monothéisme, etc. Donc, ce qui nous paraît très intéressant et très utile aujourd'hui, idéologiquement, politiquement, c'est de montrer comment ces trois religions sont liées entre elles et comment elles sont interdépendantes, comment on peut les regarder aujourd'hui d'un œil d'historien.
Tu es en train de nous annoncer qu'il y aura une troisième série sur le judaïsme, c'est ça?
Non, je ne sais pas. Déjà, l'islam, ça nous donne force d'affaires.
Oui, à mon avis, vous n'avez pas sorti de l'auberge, comme on dit. Voilà. Mais bon, voilà. Ici, on marque, tu peux être tranquille, parce que nous, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme, je pense que voilà.
C'est fou, quoi.
Oui, oui, c'est ça, nous, la religion. On ne croit pas aux autorités forcément transcendantales.
Oui.
Hein? Ah mais moi je pense qu'effectivement c'est intéressant de travailler parce que je pense que les religions ont eu une utilité et qu'elles ont surtout pour les gens de pouvoir et que bon s'émanciper des religions pour nous c'est la guérison, c'est-à-dire que bon c'est de dire que le on va faire appel à l'intelligence humaine et qu'on va pouvoir se passer enfin de trucs transcendantaux quoi.
Non mais il y a des gens intelligents qui sont religieux hein, c'est pas voilà. Là, je me fais l'avocat du diable.
Du diable, oui. mais on t'a invité au paradis en venant ici. Hein. C'est... voilà. Donc, bon, pour clore avant de boire l'apéro, parce qu'on offre toujours un petit communard aux gens qui se sont déplacés pour nos rencontres. Donc, et puis, on pourra grignoter des choses, manger, je crois qu'il y a une salade. Enfin, bon. Voilà. Donc, tu as commis donc, ton premier et non pas unique roman, puisqu'il va y en avoir d'autres. Voilà. Alors, bon, pour ne pas y passer trop de temps, est-ce que, à moins que des gens le souhaitent, mais moi je vois l'heure qui tourne, je suis maître du temps.
Je le lis en entier
Non, mais par contre que tu le...
Je vais raconter le début.
Voilà. Déjà, rien que le début.
Il y en a juste pour une heure, là.
Oui, oui. Non. Le début.
Oui, le début,
oui. Le tout début,
c'est l'histoire, l'histoire d'un enfin, c'est raconté à la première personne, donc c'est un narrateur qui raconte qui se noie et il est in extremis sauvé par une femme grenouille hein, sur une plage comme ça. On ne sait pas ce corps en caoutchouc, ce corps noir et ça abrite une femme que le narrateur veut remercier parce qu'il a sa vie est sauvée grâce à cette femme et donc il lui dit dites-moi ce que vous voulez je le ferai et bon ça se passe un peu moins rapidement que je vais le faire mais parce que je vois que Dominique est impatient et donc je veux pas lui faire de peine et donc cette femme propose un marché à cet homme qu'elle a sauvé, c'est de tuer quelqu'un. Elle lui dit voilà, en échange je veux que vous tuer quelqu'un d'autre, une autre femme. Et voilà. Et donc, le principe de ce livre, c'est que le narrateur doit retrouver sa proie, doit retrouver cette femme qu'il ne connaît pas et qu'il doit faire disparaître pour payer sa dette à celle qui lui a sauvé la vie.
Bon, drôle de collaboration, hein.
Ouais, drôle de collaboration. Mais je pense que c'est encore un livre sur... en t'écoutant, ça m'a éclairci un peu sur mon but secret.
Mais tu reviens quand tu veux. Hein.
Oui. Non, mais c'est encore un livre sur le... sur l'aveuglement et sur le passé. En réalité, c'est un livre profondément avec des personnages. C'est, ça brasse plutôt des choses qui ont à voir avec le sentiment amoureux, parce que pour retrouver cette femme, il doit retrouver d'autres personnages, d'autres femmes, etc. Mais c'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait du passé, qui est une idée qui me préoccupe beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'on fait du passé ? Est-ce que le passé, ça nous empêche de vivre, ou est-ce que le passé, ça nous permet de... ça nous permet de mettre le pied dans le présent. Enfin, je sais pas, je fais dire au narrateur une phrase à laquelle je crois beaucoup, c'est qu'on dit toujours, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Enfin, on ne sait pas ce qu'on va avoir à manger, quoi, par exemple. Quoi. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, je pense très profondément, c'est grave ce que je vais dire, plus grave que ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est qu'on ne sait pas ce que le passé nous réserve. C'est-à-dire que qu'on met beaucoup de temps à comprendre ce qu'il y a dans le passé. Enfin, je prends l'exemple du mur de l'Atlantique. On met beaucoup de temps à comprendre ce qu'il y a dans l'histoire d'une religion. On met beaucoup de temps à comprendre. Mais je pense que dans nos vies aussi, il y a des événements qui ne prennent sens que petit à petit, qui s'éclairent les uns les autres. Et donc, c'est ça qui m'intéresse dans ce que je fais et qui peut avoir l'air disparate, étonnant. Un roman, un essai sur ça, un film, sur, voilà. Mmh.
J'ai remarqué d'ailleurs que dans le mur de l'Atlantique, tu faisais des petits clins d'œil comme ça d'interprétation. Par exemple, l'organisation Todd.
Oui.
Hein, c'est quand la France organise ses offices de travail, c'est OT aussi.
Oui.
De la même façon, quand il y a le mouvement uni de résistance. Ça fait les mêmes initiales que Mur. Que le... oui. Donc, tu en as fait plusieurs comme ça dans le.
Non, c'est pas que j'en ai fait, c'est que je les relève. Je me dis, tiens, peut-être que ceux qui les ont utilisés pouvaient avoir un peu d'esprit ou de mauvais esprit, j'en sais rien. J'ai pas l'impression que ce soit moi. Hein.
Non, mais je pense que c'est. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense que l'inconscient collectif fait qu'on reprend, ou des gens qui sont en position de représentation, ils se retrouvent à dire des choses collectivement d'une manière non dite, voilà, qui est à décrypter plus tard. Quoi. C'est, voilà, bon, je veux juste... donc, si, avant de passer à l'apéro, s'il y a des gens qui souhaitent poser une question sur ce roman qui s'appelle, pourquoi d'ailleurs, hein, une femme dangereuse.
Oui. Ah pourquoi ? Il faut lire le livre parce que
d'accord.
Non, mais parce que il y a l'une des questions qu'on peut se poser quand on lit le livre, c'est puisque le narrateur rencontre plusieurs femmes, quelle est celle qui est dangereuse ? Et voilà, donc là. Non, mais quelle est celle qui est dangereuse dans le livre,
hein, pendant Donc quand on sait que des fois même on doit vraiment s'assurer que la femme c'est vraiment elle-même d'ailleurs et pas une autre aussi en plus hein, des fois.
Oui.
Bon en tout cas bon pour les personnes qui le veulent, nous n'avons que quelques exemplaires d'Une femme dangereuse et quelques exemplaires du mur de l'Atlantique qui sont à votre disposition. Pour les gens qui ne voudraient pas l'acquérir, de toute façon, ces livres sont disponibles en prêt à la bibliothèque, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas les lire, voilà. Et bon, on va, à moins que tu veuilles dire quelque chose, en tout cas, nous, on te remercie d'être venu dans le trou du cul de la France profonde, c'est-à-dire la Picardie, voilà, sous le soleil.
Si je voulais juste dire quelque chose.
Oui.
Non, parmi nous, il y a un petit... Je ne sais pas quel âge tu as, mais je voudrais savoir. Hein, tu as 11 ans ? C'est bien. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que ça doit te paraître quelquefois... Enfin, si tu veux bien répondre, hein, moi, je veux pas te... Mais non. T'as vu le film ? T'as entendu notre conversation ?
Faut parler là-dedans.
Avant de dire, je me suis endormie. Mais sinon, j'ai suivi le débat.
D'accord. Mais le film, tu t'es endormie. Tu étais fatiguée. T'as préféré pas voir ça, quoi, en fait.
Oui, voilà, moi, toi, voilà.
J'ai vu le début.
Depuis le début, bon, avant que ça finisse mal.
Ouais. Hein? Non, mais voilà, moi, c'est pour moi une démonstration un peu de comment on peut se mettre à l'abri, refuser de voir, pas voir. Et moi, je trouve que les enfants, ils ont une capacité.
Bah oui.
Il n'y a pas de jugement là-dedans. Je pense qu'effectivement, les enfants sont capables de se programmer des choses qui les mettent à l'abri de choses où c'est trop tôt ou voilà. Donc tu as bien fait de venir parce que tu as vu ce que tu voulais voir, un petit morceau, tu as entendu ce que tu voulais entendre et puis tu as pu parler dans un micro.
Voilà. Les blocos, t'en as vu des blocos au bord de la mer ou pas? Non, t'en as pas vu.
La mer Lieu, c'est toujours marée basse.
J'ai vu au moment où ils faisaient la vente des objets réquisitionnés. Enfin, voler plutôt.
Ah bon, ouais. Ah bon,
oui.
Ah oui, d'accord.
Ouais. L'endroit où il va en vacances, il n'y a pas de blocos. Ouais. Ouais, oui, moi, d'accord. Je les avais vus en Normandie, d'accord. Mais il va toujours dans les Landes et il n'y a pas.
Pourtant, il y en a dans les Landes aussi.
À Seignos, non, on n'a pas
tu
vu.
Tu regarderas si tu retournes. Il y en a sur toutes les côtes. Mm. Ah oui.
Oui,
ah,
mais là, c'est... Oui. Mm. Bon, on passe à l'apéro. Alors, bon, merci. Hein, et puis, merci. Tu reviens quand tu veux. Et puis, au mois de septembre. Oui.